Bien investir avec Alison, une émission présentée par Alison Junglin sur Radio Immo.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bien investir avec Alison. Bienvenue sur Radio Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Florian Vermet. Bonjour Florian.
Salut Alison.
Est-ce que tout va bien pour toi aujourd'hui ?
Tout va bien, très content d'être là.
Eh ben, de même. Aujourd'hui, ça va être une émission un peu particulière parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On va parler d'un thème qui est revenu énormément dans les messages de nos auditeurs, qui est l'investissement clé en main. Alors Florian, tu es un expert en la matière, un expert en investissement clé en main. Tu es le fondateur de la société Terramata. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Ouais, bien sûr. Bah, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'investissement locatif. J'ai démarré l'investissement locatif clé en main en 2014 à titre professionnel. J'ai fait 5 ans à Paris dans une société d'investissement locatif clé en main pour les expatriés. Ensuite, j'ai fait 2 ans en tant que city manager à Marseille pour une autre entreprise de clé en main parisienne. Et depuis 2 ans, donc, j'ai monté ma boîte d'investissement locatif clé en main qui s'appelle Terramata. Et donc, j'accompagne les particuliers dans leur projet d'investissement à Aix et à Marseille. Donc, c'est une solution clé en main et en fait, ils délèguent 100% de leur projet. Donc, on part de la définition du cahier des charges jusqu'à la mise en place du premier locataire.
D'accord. Et est-ce que ça va également jusqu'à la partie gestion, par exemple ?
Moi, je ne fais pas de gestion locative puisque je trouve que c'est un métier à part entière et que ça demande des ressources et une organisation. Et puis, j'ai des clients qui veulent soit une location, une solution en location meublée, d'autres qui souhaitent faire de la location courte durée. Donc, pour ces raisons-là, moi, je ne fais pas la gestion locative et je fais une mise en relation avec un partenaire, donc soit une conciergerie partenaire si la personne veut faire de la location courte durée type Airbnb, soit une location meublée classique. Et là, je les mets dans une agence classique qui va gérer leur appartement au quotidien.
Très bien. En fait, tu mets en place chaque professionnel par rapport aux demandes de ton locataire. S'ils veulent faire de la location saisonnière, tu vas te diriger vers une conciergerie avec laquelle potentiellement tu travailles et pour que chacun ait, si c'est une location à l'année, du coup, tu vas plus les diriger peut-être sur des agences immobilières qui sont dans le secteur recherché.
Ouais, complètement. Moi, j'interviens vraiment sur la partie acquisition. Donc, moi, je suis là pour définir le cahier des charges. Donc, au début du brief, avec le client, on définit ensemble la stratégie d'exploitation du bien. Est-ce qu'il va plutôt partir sur une location courte durée, un mix entre un bail mobilité de 9 mois et puis après un peu de saisonnier pour booster la renta pendant l'été, ou alors une location meublée classique. Donc ça, on définit en amont du projet.
Tu vas t'adapter après, en fonction de la demande de ton client. Est-ce qu'il veut le maximum de renta, quitte à ce que ça lui prenne un peu plus de temps pour la gestion, ou alors est-ce que pas du tout, il veut vraiment une... Et est-ce que tu fais aussi du nu ou c'est tout le temps du meublé ?
Ouais, je fais tout le temps du meublé, fiscalement.
C'est plus rentable. Voilà. Je suis vraiment toujours dans un... Ça, c'est vraiment un petit rappel pour tout le monde. C'est vraiment... Je conseille toujours de faire du meublé parce qu'en termes de fiscalité et en termes de cash flow possible, ça vous permet d'augmenter grandement en fait le reste à vivre, entre guillemets, enfin ce qui vous reste pour vous. Et ça permet d'avancer beaucoup plus vite avec moins d'immobilier finalement.
C'est ça. Et puis moi, mon cœur de métier, enfin ma spécialité, c'est de prendre quand même des appartements à rénover, puisque l'objectif, c'est quand même d'apporter de la valeur aux appartements, de faire des travaux, de les remettre au goût du jour.
C'est là où on gagne le plus de rentabilité en fait.
Exactement. Mmh. On achète moins cher en termes de prix au mètre carré, on maîtrise les travaux qu'on fait dans l'appartement et puis ça permet de le mettre à notre goût et de le mettre en adéquation avec la stratégie qu'on a choisie. Mmh. Ça ne sera pas les mêmes finitions sur un appartement en meublé classique versus un appartement en Airbnb où là, on va devoir...
Airbnb, au niveau de la déco, il faut que ce soit plus pointu parce qu'il y a beaucoup plus en fait, de concurrence. Alors qu'en meublé, quand on voit quand on va sur les différents sites, Le Bon Coin, particulier à particulier, on voit que quand on regarde sur simplement un logement meublé standard, il y a au niveau de la décoration, c'est pas vraiment recherché. Enfin, le niveau, il est pas exceptionnel. Alors que par contre, dès qu'on va sur Airbnb ou Booking, là, on passe dans une autre sphère. Hein.
Et c'est ça. Et en plus, nous, on construit les appartements en fonction de la stratégie. C'est-à-dire que typiquement, si tu fais de la courte durée, bah, on sait que c'est apprécié d'avoir un petit placard qui ferme pour pouvoir entreposer le linge, pour pouvoir entreposer des serviettes, du réassort pour les consommables, le ménage, etc. Donc en fait, on prévoit tout ça en amont pour que l'appartement, une fois livré, bah, ça soit...
En fait, ça soit. Alors ça va vraiment dans le détail. En fait, c'est jusqu'au dernier détail, en fait.
Exactement,
Ok, donc c'est... Ça va, alors je ne veux pas spoiler parce qu'on a des questions aussi d'auditeurs, alors je vais quand même commencer à piocher dans les questions parce que j'ai peur qu'on parle avant de ce qu'on devrait parler après. Mais je veux quand même qu'on rebondisse encore sur une chose. Au niveau de... Donc à quel moment, toi, entre guillemets, ton chemin s'arrête? Est-ce que c'est au moment de la remise des clés, au moment où les travaux sont finis et voilà? Et qu'il y a le locataire en place ou pas, peut-être en fonction de ce que le client veut, à quel moment ça s'arrête?
En gros, moi, ça s'arrête le moment où j'ai remis les clés soit à l'agence, soit à la conciergerie, soit au propriétaire, si jamais il veut le gérer en direct.
D'accord.
Ce qui est rarement le cas, puisque quand on fait du clé en main, on va y venir. C'est généralement qu'on n'est pas sur place, qu'on a besoin d'un expert local, mais Il y a des fois où les propriétaires veulent récupérer leurs biens parce qu'il peut y avoir des événements en cours de projet, puisqu'on est quand même sur une durée de projet qui va durer entre 6 et 8 mois. Donc, il peut y avoir des changements. Mais effectivement, moi, ma mission se termine le jour où j'ai remis les clés et l'appartement est nickel. Le shooting photo a été fait.
Il y a shooting photo aussi dans le package. Il y a aussi le shooting photo.
Le ménage, l'appartement, il est prêt à
accueillir le locataire, quoi.
Exactement, ouais.
OK. Alors... Donc, on a eu, en fait, quand j'ai partagé ce sujet, en fait, sur les réseaux et sur l'application de Radio Immo, c'est vraiment, on a reçu énormément de questions, ça interpelle beaucoup. Donc, dont une question de Gabriel de Biarritz qui nous demande « Quelles sont les différences majeures entre acheter un bien dit clé en main et un achat standard ?» Donc, quelles étapes sont totalement différentes ?
En fait, il y en a... Un où tu vas gérer toi-même toute la partie acquisition et l'autre, tu vas déléguer intégralement toutes les étapes du projet.
Et est-ce que donc, quand en fait, on dit toutes les étapes du projet, donc c'est la recherche du bien?
Ouais, la recherche du bien.
Également le financement ou pas?
Ouais, on va les aider également sur la partie financement. Donc, alors, bien évidemment, le plus simple, c'est d'aller voir sa banque parce que tu as un historique bancaire avec ta banque. Mais en amont du projet, dans tous les cas, on fait une étude de faisabilité financière et on s'assure que le client a un financement validé en amont du projet. Parce que même que lorsqu'on va se positionner sur des biens, maintenant, les conditions de financement, c'est vraiment une étape essentielle.
Donc, aujourd'hui, ils ne veulent pas signer. On ne signe aucun compromis, on ne signe pas. Ils n'acceptent pas d'offres si à côté, c'est très rare en tout cas.
Voilà. De la banque,
même si on le sait, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'un accord de principe, ça ne veut pas dire qu'on va avoir le crédit, loin de là. Ça veut juste dire que dans les faits, avec les revenus déclarés, nos charges et tout, dans les faits, ils financent. Mais ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'ils financent.
Mais au moins, ça rassure la partie. Et puis, ça assoit aussi un certain sérieux. Quand on fait une offre, il y a une offre d'achat qui est faite en bonne et due forme. Et à côté, une attestation de financement, ça montre que on est sérieux, on connaît nos clients. Et puis, que l'offre, si elle est acceptée, on va au bout du projet.
Est-ce qu'il y a un courtier qui intervient dans le... Est-ce qu'il y a parfois des courtiers qui peuvent intervenir?
Ouais.
D'accord.
Ouais, carrément, parce que en fait, généralement maintenant, quand on passe devant chez le notaire, au niveau du compromis, il nous demande à minima de déposer deux dossiers de financement. Donc, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de déposer un dossier dans leur banque, parce que c'est là où ils ont le plus de chances d'être accompagnés, parce qu'il y a un historique, et ensuite d'aller voir soit une banque, donc on a pas mal de banques partenaires également avec qui on travaille en direct, soit généralement, il y a des courtiers qui font très très bien le boulot aussi, et qui permettent de trouver des solutions de financement.
D'accord, très bien. Donc, en fait... Toi, dans ton écosystème, tu as un peu tous les professionnels que tu peux avoir besoin pour... Donc, ça passe pour trouver le bien, pour le financement, pour les travaux, pour trouver un bon locataire à être sûr qu'il nous paye, enfin, du début à la fin, quoi. OK.
C'est ça. En gros, c'est comme si demain, on fait une petite métaphore avec la cuisine. C'est demain, tu veux créer un dessert ou un plat pour tes invités. Bah, soit tu fais toi-même les courses, tu fais toi-même, tu vas consulter sur Internet les recettes, tu te formes en regardant des vidéos sur comment faire, etc. Tu cuisines, tu fais ta cuisson, tu mets ta mise en place, etc. Tout ça, ça demande du travail, du temps. Voilà. Donc ça, c'est si tu veux le faire toi-même. Soit si t'as pas envie
soit
de
tu vas l'acheter dans une boulangerie, quoi. C'est ça.
Exactement, voilà. C'est ça. C'est soit tu vas chez le traiteur ou le pâtissier et tu commandes ton gâteau et tu viens le rechercher quelques jours plus tard.
Bon, bah là, quelques jours, bon là c'est peut-être quelques mois quand même. Là, mais...
c'est ça, mais en gros, voilà, moi je conseille aux gens de faire du clé en main si vous n'avez pas le temps, parce que clairement c'est à peu près 200-250 heures de travail.
Alors on va venir dessus parce que je crois que c'est une question qui va venir à un moment. Alors j'avais une question aussi de Lucille de Strasbourg qui demande quelle est la rémunération moyenne pour ce type de prestation, parce qu'en fait beaucoup de monde veulent se faire accompagner. Maintenant, je vois dans les questions qu'on a beaucoup reçues, les gens ont peur que ce soit finalement, en gros, que ça vienne manger leur rentabilité et qu'ils se retrouvent avec un bien qui est plus rentable du tout.
Bah, c'est clairement, pour moi, c'est clairement le cas, puisque tu rajoutes un intermédiaire, donc tu rajoutes un frais supplémentaire. Donc forcément, ça va te rogner un petit peu de rentabilité théorique.
Ce qui est normal, c'est dès qu'on ne fait pas soi-même, ça coûte plus cher, c'est normal. Maintenant, à quel point ça coûte plus cher ?
Ça va dépendre des sociétés. Grosso modo, la plupart des grosses sociétés facturent entre 6 et 8% TTC de la valeur du bien. Et puis, je pense que les moins chers, ça va être autour de 7, 8, 9 000 euros TTC pour un accompagnement clé en main sur des petites villes à moins de 100 000 euros le projet, pardon.
Et on peut prétendre à combien de rentabiliser à peu près sur un bien fini, le minimum, enfin, en moyenne, on va dire.
Ça va dépendre un petit peu de la stratégie que tu choisis. C'est-à-dire, soit tu choisis une stratégie qui est plutôt patrimoniale, et là, tu vas cibler l'hypercentre, et là, on va plutôt être sur des rentas qui vont être entre 4 et 6% de rendement brut. Soit tu es sur une stratégie plutôt équilibrée où là, tu vas viser certains quartiers un petit peu dynamiques avec encore un potentiel de plus-value. Et là, on va être entre 6 et 8% de renta. C'est généralement ce que demandent 80% des clients. Soit tu es sur une stratégie qui est beaucoup plus agressive. Tu veux du cash flow, tu veux aller chercher de la renta. Et là, à partir du moment où tu vas chercher un niveau de rentabilité qui est élevé, il y a un niveau de risque qui est également élevé puisque tu sais que le couple rendement-risque est fortement lié. Donc, du coup, on va aller dans des villes ou dans des secteurs avec un peu plus de risque, que ce soit en termes de locataires, en termes de prix au mètre carré, en termes d'urbanisme, avec des perspectives de prise de valeur qui peuvent être intéressantes, mais un peu plus long terme.
Après, 6-8% de renta, pour un bien finalement que les acquéreurs n'auraient pas acheté, parce que souvent quand ils font appel à une entreprise pour l'investissement immobilier clé en main, c'est souvent parce que ils se sentent pas d'acheter seuls, ils ont parfois un peu peur, ou alors tout simplement ils ne savent pas quoi acheter. Donc finalement, c'est pas... En tout cas, c'est comme ça un peu que je vois les choses. Je pense qu'il ne faut pas le voir, et je dis ça surtout pour nos auditeurs, je pense qu'il ne faut pas le voir comme un 10% de renta qui passe à un 7% ou un 6%, puisqu'en fait, c'est pas 10% de renta, puisque les personnes qui font appel à ça n'auraient pas été le chercher tout seul. Donc, c'est mieux d'avoir 6% de renta que de rien avoir du tout, en fait. Voilà comment je vois un peu...
C'est ça. Et puis, faut pas oublier que l'IMO, c'est un horizon à temps long. On va investir, on va s'endetter sur 20, 22, 25 ans. Donc, au final, quand on prend ce coût pour effectivement sécuriser son premier investissement ou être accompagné par un expert, ce qui permet également de se former tout au long des étapes du projet, au final, c'est un coût qui peut vous permettre de vous sécuriser le premier investissement et surtout de vous économiser du temps.
Et puis de prendre confiance au fur et à mesure du temps et de voir que c'est possible. En fait, c'est comme si, entre guillemets, on s'obligeait un peu à épargner. Et encore là, au final, il n'y a pas vraiment d'effort d'épargne. Mais en fait, on s'oblige à avoir un capital qui va augmenter au fur et à mesure des années. Et notre bien, forcément, il prendra toujours de la valeur si on achète. Voilà, il y a quelques règles à respecter. Si on respecte ces règles d'investissement, notre bien, il prendra toujours de la valeur. Et même un bien pas rentable aujourd'hui, ça, c'est une phrase que je dis souvent, mais je l'ai observé même dans mes achats Mes premiers achats, où je ne savais pas du tout investir. Mais en fait, le temps joue toujours en notre faveur pour l'immobilier. Donc un bien qui n'est pas rentable aujourd'hui ou un bien qu'on achète au prix du marché, parce que souvent je dis acheter sous le prix du marché. Mais par contre, il y a des fois, il y a un loupé ou quoi, donc on achète au prix du marché ou au-dessus du prix du marché. Mais finalement, on en reparle dans 4 ans, on verra qu'il sera bien en dessous du prix du marché. Parce que l'immobilier, c'est ça. C'est un peu magique quand même, l'immobilier.
Ouais, complètement. Et puis même, tu vois, pour compléter ce que tu dis, tu pars du principe qu'on peut pas, enfin, on n'a pas de boule de cristal, on peut pas prévoir ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais t'investis dans un appartement. Aujourd'hui, on va dire n'importe quoi. T'investis dans un appartement qui vaut 200 000 euros. Demain, il y a une crise immobilière sans précédent, etc. Même si l'appartement, on part dans des schémas extrêmes, hein, il perd 50% de sa valeur. Mais en termes de loyer, tu vas pas perdre 50% de ton loyer.
Puis tant qu'on le vend pas, en fait, voilà. On voit pas qu'il a perdu. Le but, c'est pas de vendre quand on est dans le creux de la vague, c'est de garder, de justement, c'est là où, entre guillemets, il faut pas avoir peur, parce que souvent, c'est là où les erreurs se font, c'est quand ça baisse. Donc, on peut être un peu stressé et on se dit, ah non, mais il faut que je vende parce que là, je vais perdre tout ce que j'ai, mais c'est en vendant qu'on perd une bonne partie de ce qu'on a, en fait. Faut garder et puis exactement. Revendre à un autre moment.
Exactement. Et puis là, on l'a vu pendant la période d'inflation qu'on a subie. En fait, les loyers, même si le pouvoir d'achat des gens baisse, en fait, le loyer étant indexé sur l'inflation, sur les deux dernières années, les loyers ont fait que augmenter. Et sur certaines villes, il y a eu des indices de référence de loyer qui ont littéralement explosé, puisqu'il y avait une partie qui était indexée sur l'inflation. Donc au final, le prix d'achat, bien évidemment, c'est là où on fait les meilleurs.
Et puis, il faut bien regarder prix d'achat avec combien on va louer et que ça reste quelque chose. On ne doit pas mettre énormément d'argent tous les mois parce que sinon, ce n'est pas possible. Donc ça, il faut bien le regarder. Et aussi, ce qui est très important, et si on respecte ça, finalement, on ne peut plus pas vraiment se tromper, c'est même si on veut faire demain de la location saisonnière, se dire si à un moment, on ne sait pas, parce qu'en plus, comme les lois, elles changent énormément en ce moment, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, au moins se sécuriser, se dire, OK, j'ai fait mon calcul pour de la location saisonnière, mais j'ai quand même fait mon calcul pour de la location meublée à l'année et au moins que ça s'autofinance en location meublée à l'année. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, vous remettez votre bien en location meublée et puis au moins, vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche. Donc, OK, vous n'en gagnez peut-être plus sur ce bien-là actuellement. Enfin, vous en gagnez, mais indirectement, on va dire que tous les mois sur votre compte, vous ne voyez pas l'argent s'accumuler, mais vous avez votre bien qui se rembourse, bien évidemment. Mais ça permet de vous dire, je n'ai pas la corde au cou de devoir vite vendre alors que ce n'est peut-être pas une bonne période pour vendre.
Exactement, c'est exactement ça. Et même si on n'arrive pas à l'équilibre, moi, c'est ce que je dis aux clients, demain, ce bien-là, vous ne pouvez plus le vendre, le louer en courte durée parce que la législation a évolué, la mairie de Marseille a dit stop au Airbnb. On l'a bien vu à New York, hein, du jour au lendemain, la mairie de New York a dit terminer les Airbnb en 30 jours. Interdiction de louer des biens à moins de 30 jours. Donc, on voit que ça a complètement transformé le marché. Mais moi, c'est ce que je leur dis à mes clients. Je leur dis, demain, vous basculez en location meublée, même si vous avez on fait les calculs et je leur dis, voilà, vous avez 100 ou 200 euros d'effort d'épargne par rapport au schéma du bien. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque financier? Est-ce que 100 ou 200 euros d'épargne, ça vous met en difficulté par rapport à votre reste à vivre? Ou est-ce que si demain, il y a ça, vous êtes confortable avec ça? À partir du moment où j'ai la réponse du client, on peut avancer sereinement sur différentes stratégies d'exploitation. Puis tu l'as dit toi-même, il y a des biens où on va démarrer en saisonnier, puis après, on va basculer sur du meublé. De toute façon, un bien, ça vit, ça évolue. Donc
tu t'adaptes vraiment à chaque client, en fait. Tu n'as pas deux dossiers qui sont pareils. C'est vraiment en fonction des attentes du client, exactement, de ses possibilités aussi financières et de ses objectifs, finalement.
Complètement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vais faire une mini-analyse patrimoniale pour m'assurer que lorsque le client réalise son projet, il n'ait pas mis toutes ses économies dans le projet, il ne lui reste pas un petit matelas de sécurité pour vivre, parce que déjà la banque n'aime pas ça et qu'il faut toujours avoir 3-6 mois de trésorerie d'avance pour un coup dur, etc. On fait tout ce travail-là en amont du projet, on définit le cahier des charges, et une fois que tout est au clair et que le client il est à l'aise avec le projet, là, moi, derrière, je peux initier le sourcing et commencer à chasser les appartements.
D'accord. OK. Et au niveau des délais, à peu près, entre le moment où le client vient de voir et que c'est OK pour le financement, il y en a pour combien de temps entre le délai de recherche, de négociation? Est-ce que tu négocies d'ailleurs avec le client? Tu l'aides à négocier aussi?
Je l'aide, c'est moi qui fais la négociation directement avec le vendeur. Donc, moi, en fait, je fais une analyse une fois que j'ai trouvé un bien, effectivement, pour répondre à ta question. En termes de sourcing, il faut à peu près entre 1 et 3 mois pour trouver l'appartement. C'est généralement les standards.
Bah, en général, c'est ce que je dis. Je dis à chaque fois à ceux qui parce que je reçois sur Instagram tout le temps des messages et genre on me dit non mais moi je trouve pas, ça fait 2 ans que je cherche, ça fait 1 an et demi que je cherche, je trouve pas. Et à chaque fois, je pense à un truc, mais je suis sûre que c'est là, il faudrait vraiment faire un test, mais je vois bien. À chaque fois, je leur dis. Pour moi, si vraiment t'es focus, tu te dis que tu cherches, machin, tu cherches chaque jour, tu mets les choses en place, les notifications sur toutes les plateformes, voilà, que t'as rentré tes recherches et que t'es pas focus, que tu veux tel bien dans telle rue avec tant de fenêtres sur la façade, enfin voilà, que tu recherches quand même quelque chose qui est raisonnable et pas le mouton à 5 pattes. Je pense quand, si au bout de 3 mois tu n'as pas trouvé, c'est que au fond de toi, alors soit tu cherches vraiment mal, soit au fond de toi, t'as un peu peur quand même de trouver le bien. Parce que sinon, c'est
ou
pas
alors,
possible.
Effectivement, comme tu as listé trop de critères et en fait, le bien que tu
parce
cherches.
Parce qu'il faut pas, en fait, faut que l'arrondissement, enfin, faut que la recherche, elle soit pas comme ça, en fait. Faut que ça soit pas un petit grain de sable dans un. Non, il faut quand même rester réaliste et pas, même, pour moi, même chercher un quartier en particulier, c'est quand même se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Il vaut mieux. Faut quand même avoir un périmètre qui soit assez grand pour moi. Surtout que quand c'est pour du locatif, c'est quand même pas comme si c'était pour notre résidence principale où là, je peux comprendre qu'on ait des critères hyper carrés parce qu'on se dit, bah voilà, je veux peut-être que mes enfants, ils aillent dans cette école, je veux être près des commerces qui sont là, voilà. Mais quand c'est du locatif, bah en fait, il y a des locataires qui veulent habiter un peu partout. Donc au final, on peut agrandir notre cercle de recherche, quoi.
Ouais, et c'est là où ça devient hyper intéressant parce que et c'est là où tu vois quand t'as de l'expérience et toi je le vois aussi dans ton approche, c'est que tu comprends les usages futurs des gens. C'est-à-dire que déjà quand tu connais ton marché, tu sais que bah là il va se créer une école, là va y avoir une extension de tram qui va forcément dynamiser le quartier, créer de la valeur. Donc en fait nous on sert de relais par rapport à notre expertise locale, l'expertise immobilière également, et on vient caler le projet du client par rapport à ses petites spécificités locales. Et comme tu dis, bah il y a des, enfin les gens ont besoin de se loger. Il y a un manque de logement qui est énorme. Et à partir
encore plus dès qu'on fait du beau, bah au final ils vont être attirés par notre logement. Donc au final on est, pour moi il y a même plus trop de concurrence quand on fait vraiment du beau. D'ailleurs en parlant de ça, du coup comme tu m'as dit que tu faisais donc jusqu'à la décoration des biens. Comment tu fais pour que tous les biens ne soient pas les mêmes ?
Eh ben c'est une très bonne question. C'est vrai qu'avec IKEA...
Parce que si on va sur Airbnb et que tu as 10 biens qui sont à peu près dans le même quartier, qui sont les mêmes, on s'en sort plus.
Ah, on s'en sort pas. Et puis, en fait, tu cannibalises toi-même ton
voilà,
marché.
C'est lui, ça. C'est, ça...
En fait, bah, je fais appel à une décoratrice qui est spécialisée dans l'investissement. Et qui va en fait apporter une petite touche sur chaque appartement au moment du brief ou avec un petit call rapide avec la cliente, elle va lui donner un petit peu l'idée. Moi, je vais lui donner la stratégie d'exploitation et comme ça, on va pouvoir travailler sur un pan de mur avec une couleur un peu tendance ou des éléments de déco qui sont tendance aussi. Et comme ça,
donc ça part de l'idée de déco, part du client ce qu'il veut à la base, c'est ça ? Dans quel univers en fait il veut que
exactement. Son appartement. C'est-à-dire qu'on lui donne des thématiques. Est-ce qu'il veut plutôt une thématique industrielle, une thématique bobo chic, une thématique hippie, une thématique un peu méditerranéenne. Il choisit un peu ce qu'il préfère lui par rapport à ses goûts. Et puis ensuite, la décoratrice avec la stratégie d'exploitation, la thématique, elle va faire une proposition au client. Le client va pouvoir modifier quelques items, quelques pièces si besoin. Et ensuite, on valide le pack. Et le jour où l'appartement est terminé, il y a un camion qui arrive le matin et avec tout le mobilier à l'intérieur. Comme ça, 48 heures après, l'appartement est terminé et nos équipes de montage sont tout installées, etc. Comme ça, derrière, on fait un ménage. Comme ça, tout est propre, tout est nickel. Et l'appartement est prêt à être loué.
Donc, il n'y a pas de risque de se retrouver avec le même appartement que le voisin, quoi.
Non, généralement, il n'y a pas de risque. Voilà. Et c'est vraiment les éléments sur lesquels on essaye de travailler, sur à chaque fois des éléments différenciants, travailler sur des couleurs, des thématiques, pour avoir un petit peu de variété dans les photos et dans le catalogue.
Et du coup, au niveau de la décoration, pareil, est-ce qu'il y a différents budgets ou est-ce que c'est toujours le même budget décoration en fonction de la, si, alors, pour un appartement de la même taille?
Ouais, j'ai essayé de standardiser un petit peu des budgets. Mmh. Donc, par exemple, pour un studio, on va être sur un tout compris avec la literie, les éléments déco, la cuisine, etc. On va être à peu près à 5 000 euros TTC, livraison et montage inclus. Sur un T2, on va être plutôt autour de 6 000, 6 500. Et sur un T3, on va être entre 8 et 9 000 euros.
Quand tu dis avec la cuisine, c'est la déco de la cuisine, mais pas les meubles de cuisine.
Ouais, la cuisine. Donc, tout ce qui est verre, serviette.
Ouais, d'accord. Ok. Ah oui, du coup, il y a tout ce qui est ustensiles de cuisine, c'est compris dedans. Exactement. Et ouais. Les serviettes, les draps de lit aussi, avec les couettes, les oreillers, le matelas, tout. Ouais. Ok, d'accord. Tout. Les rideaux et tout, genre jusqu'au dernier.
Les rideaux, je vais même jusqu'à, pour de la location courte durée, je vais même jusqu'à souscrire le contrat ELEC pour le client et lui installer la box et lui installer la boîte à clé pour que vraiment il y ait tout qui soit.
Et l'électroménager aussi, c'est toi qui t'en occupes
Exactement, okay. c'est compris dans le paquet de cuisine.
Très bien. Eh ben merci beaucoup Florian pour toutes ces réponses, ça nous a beaucoup éclairé. Je pense que ça aide beaucoup les téléspectateurs qui se posent des questions sur l'investissement clé en main. Et aujourd'hui, on voit que ça reste quelque chose d'accessible qui permet à quelqu'un qui est un peu frileux de se lancer un peu seul, finalement, d'être accompagné et de pouvoir quand même le faire.
C'est ça. Et de se former également au cours du projet, ça, c'est toujours intéressant. Et voilà, pour les personnes qui connaissent pas le secteur, qui n'ont pas forcément le temps ou l'énergie de le faire, ben, ça peut être une solution qui peut être intéressante pour ce type de profil-là.
Eh ben, j'espère te revoir bientôt sur le plateau de Radio Immo et je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses.
Avec plaisir. À très vite.
Je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très vite dans une nouvelle émission sur Radio Immo.
Bien investir avec Alison, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli de Radio.Immo et sur toutes les plateformes de streaming. We'll be right back.